Merci Guy. Nous allons prier.
Seigneur, merci car nous avons le droit, le privilège et l'honneur de nous rendre au culte. Nous te remercions et nous prions pour nos frères en Algérie et ailleurs où il y a de l'opposition, de la persécution, de la torture pour ceux qui veulent aller au culte. Seigneur, nous te prions de réconforter, de consoler nos sœurs et nos frères qui souffrent parce qu'ils veulent aller au culte. Aide-nous, Seigneur, à être reconnaissants pour les bénédictions que nous avons ici. Et rends-nous attentifs, Seigneur, à la lecture de ta sainte parole, nous te prions. Au nom de Jésus. Amen.
Je vous invite à trouver le psaume 3. Le psaume 3. Je lis le psaume 3 dans la Bible, second 21. Psaume de David, lorsqu'il fuyait devant son fils Absalom. Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Beaucoup se dressent contre moi. Beaucoup disent à mon sujet, pas de salut pour lui auprès de Dieu. Pause. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. À pleine voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Pause. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je n'ai pas peur de ces milliers de personnes qui m'assiègent de tous côtés. Lève-toi, Éternel. Sauve-moi, mon Dieu. Tu gifles tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut appartient à l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Pause. Et Amen. Le titre de ce psaume explique le contexte dans lequel ce psaume a été rédigé. J'ai dit, c'est un psaume, c'est un cantique, c'est aussi une prière. Le contexte est assez précis. Ce psaume a été rédigé lorsque David était en fuite. Il était roi de Jérusalem, mais son fils, ou un de ses fils, ce n'était pas l'aîné, Absalom, l'a fait fuir, il l'a chassé de son royaume. 5 chapitres dans le livre de 2 Samuel sont consacrés à cet épisode mouvementé et triste dans la vie de David. Un épisode bien compliqué. Pendant ce temps de mise à l'écart, quand il a dû quitter sa ville, son trône et son palais, pendant ce temps, David est passé par un temps de remise en question, un temps de doute, un temps d'angoisse, mais aussi un temps de renouvellement de sa foi et de sa confiance en Dieu. Il y a des chrétiens qui passent par un temps de doute et d'angoisse et qui s'arrêtent là. Mais David ne s'est pas arrêté là, dans l'angoisse. Il a renouvelé sa confiance dans le Seigneur. Alors, il y a deux mots qui résument ce psaume. Et les mots vont apparaître sur l'écran dans quelques secondes. Ceci va faire le nécessaire. Je crois que... Ah oui, il manque. Ok, voilà. Absalom, voilà sa photo. Deux mots qui expliquent ou qui résument ce psaume. Le mot quantité et le mot qualité. quantité et qualité. Je m'explique. David fait savoir qu'il a une quantité de problèmes. Mais en même temps, il nous indique qu'il a sa confiance en Dieu et sa relation avec Dieu est de grande qualité. Quantité de problèmes, mais une relation de qualité avec le Seigneur. Alors, on va regarder ces deux mots. D'abord, le mot « quantité ». Verset 2, « nombreux ». Verset 2, « beaucoup ». Verset 3, « beaucoup ». Verset 7, « milliers ». Verset 7, « de tous côtés ». Il a des ennemis nombreux. Il a beaucoup de gens qui se dressent contre lui. Il parle de beaucoup qui se moquent de lui et qui, par conséquent, se moquent de Dieu. Il dit que ses adversaires se comptent par milliers. Et le roi David dit qu'il est attaqué de tous côtés. Une situation que je dirais est pas grave, mais très grave. Que des problèmes, que des ennuis, que des soucis. Coup sur coup, David connaît des problèmes. Est-ce qu'il vous est arrivé de connaître des problèmes, des ennuis, des soucis, coup sur coup? Pensez à ce mot coup, C-O-U-P. Le fils de David était à l'origine d'un coup d'État, ou d'un coup d'éclat, si vous préférez. Il a provoqué un véritable coup de théâtre. Les amis d'Absalom auraient pu se vanter d'un coup de maître. Parce qu'Absalom a chassé son père. Presque personne n'était auprès de David pour donner un coup de main. Encore moins de monde pour passer un coup de fil. C'était normal que David souffre d'un coup de barre ou d'un coup de pompe. Je me demande, est-ce qu'il avait envie de donner un coup de poing à son cher fils? En résumé, David est en train de vivre un véritable coup de Trafalgar. Mes amis français, je m'excuse devant vous pour ce rappel historique douloureux dans votre histoire. En tout cas, David vient de se faire détrôner. Il vit un désastre. Il vit quelque chose de complètement inattendu. Et la définition dictionnaire d'un coup de Trafalgar, c'est de vivre un désastre et quelque chose de complètement inattendu. Et pour David, c'était le cas. Un désastre sur le plan personnel, sur le plan familial, sur le plan national. D'où David dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Ou qu'est-ce que toi tu fais? Beaucoup de problèmes, un désastre pour le pauvre David. Un autre coup, grâce à un coup de pouce, de la part de l'Éternel, David sait comment réagir. Il peut arriver à un chrétien de connaître une épreuve, des épreuves, quelques épreuves, une quantité d'épreuves simultanément. Si vous regardez l'histoire de l'Église, on voit beaucoup d'hommes et de femmes de foi qui ont connu épreuve après épreuve après épreuve. Ou parfois une quantité de difficultés en même temps. Si vous permettez un petit exemple personnel, il y a quelques années, nous avions donc nos quatre enfants à la maison. L'aîné, qui avait 10 ans à l'époque, était parti en classe de neige. Nous habitions dans la Sarthe, il était à 1000 km dans les Alpes, quelque part au nord de Nice. Il nous écrit un jour, un jeudi, il dit, à l'époque, il n'y avait pas d'email, je crois. Au fait, j'ai fait mal à mon genou, je ne peux plus marcher, je marche avec des béquilles. Bon, un jeudi, il était à la neige avec son prof, 1000 km, on ne peut rien. Le lendemain matin, notre dernière petite, qui avait 2 ans, se réveille, couverte de boutons. On fait venir le médecin, mais on savait que c'était la varicelle. En même temps, notre deuxième se réveille avec mal au ventre. Donc on dit à la doctoresse, Rosa, qu'elle s'appelait, elle vient et dit, est-ce que vous voulez bien regarder notre deuxième? Elle regarde, elle revient avec le diagnostic. Eh bien, c'est l'appendicite. Hôpital tout de suite. Et il était opéré le matin même. 3 enfants sur 4 étaient HS. Ce qui est compliqué la chose, c'est que ce matin même, une heure après la visite du médecin, je devais partir pour 3 jours en Allemagne, pour des réunions dans des églises, quelque chose de très spirituel. Eh bien, que faire? Je demande l'avis de mon épouse. Épouse formidable, maman formidable, et elle dit, vas-y mon chéri, je vais gérer. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je suis parti. Hein. Et ma femme a géré avec sa mère et avec quelques amis. Mais imaginez que, en même temps et ce même jour, que ma belle-mère soit hospitalisée d'urgence pour des soucis cardiaques. En plus que notre chien se fasse écraser par notre voisin qui n'aime pas les chiens et on soupçonne qu'il a fait exprès. Que la banque nous appelle pour exiger qu'on règle toutes nos dettes dans les 24 heures. Qu'il y ait un dégât d'eau important chez nous à cause d'une fuite chez le voisin au-dessus. Que les pompiers m'appellent pour dire que notre église a pris feu et il fallait se déplacer de suite. Et que notre seul ordinateur soit HS à cause d'un virus informatique. Et que le voisin qui vient boire son café le matin avec un pot de peinture renverse son pot de peinture sur le nouveau canapé et la nouvelle moquette. Désastre après désastre. Rien de grave, il faut dire. Mais on ne pourrait pas dire que c'est la routine. On aurait pu employer les mots de David, beaucoup, nombreux, si on disait milliers, bon, on aurait exagéré. De tous côtés, dans un sens. Mais sans plaisanter, il peut arriver à un chrétien de connaître beaucoup de tuiles en même temps. Et ce qui compte, c'est comment est-ce que je vais réagir? Comment est-ce que je vais agir vu ce qui m'arrive? Alors j'aimerais que vous regardiez bien ce texte qui est sur l'écran. Il nous est impossible de contrôler les circonstances. Par contre, il nous est possible de contrôler notre réaction face aux circonstances. Je répète, il nous est impossible de contrôler les circonstances. Par contre, il nous est possible de contrôler notre réaction face aux circonstances. Quantité. Maintenant, le mot qualité. Il y a une phrase charnière, pivot dans ce texte, et c'est la phrase au début du verset 4. Et vous avez remarqué, si vous lisiez les psaumes, vous trouveriez plusieurs psaumes avec une phrase où tout change. Mais toi, Éternel, dans les propos de David qui suivent, il dit les choses suivantes, parce que il se rend compte, j'ai tous ces soucis, mais il décide d'inclure Dieu dans l'équation. Il ne veut pas exclure Dieu de tout ça, il veut inclure Dieu dans tout ce qu'il vit. Et ça, c'est une clé qui peut nous aider lorsque nous avons tuile après tuile. Que dit David? Dieu, je veux dire ce qui est vrai. Tu es mon bouclier. Tu es mon défenseur. Tu es mon protecteur. Tu me rendras la gloire qui m'est due en tant que roi. Tu m'entoures. Tu redresses ma tête. Tu me permettras de marcher la tête haute, malgré les épreuves que je connais aujourd'hui. Je prie. Je crie. Et tu m'entends. Tu m'écoutes. Et du haut de ta montagne sainte, tu me réponds. Dieu, tu es mon soutien. Dieu, tu m'envoies ton secours. Dieu, tu me rends courageux. Dieu, tu me donnes la force pour faire face. Tu enlèves mes peurs. Tu enlèves mes appréhensions. Je sais que tu t'occuperas de tous mes problèmes, de toutes mes épreuves, et même de tous mes ennemis. Et Dieu, je sais que tu me garantis le salut. Et le salut dans ce contexte-là, c'est la délivrance. Je sais que tu vas me délivrer d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard. David savait que parfois c'était tôt, c'était immédiat, mais parfois c'était tard. Des années d'errance, des années de solitude, des années de questionnement. Et il termine en disant, Seigneur, ta bénédiction sera sur ton peuple. C'est notre verset en tant que couple pour l'année 2018. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. David sait que Dieu est là. Malgré les apparences, malgré les sentiments, malgré les moqueries, quand on dit « mais Dieu ne va pas t'aider, mon petit », David contredit tous ces menteurs. Il sait que Dieu est là. Et il sait que malgré tout, Dieu est le Dieu de l'impossible. David sait que Dieu peut complètement retourner une situation, comme une crêpe. Il peut transformer, chambouler, renverser des situations qu'on peut connaître. Parfois immédiatement, parfois dans le temps. Et si c'est dans le temps, Dieu nous appelle à lui faire confiance. La chose la plus facile à dire, mais parfois la chose la plus difficile à faire, lui faire confiance. Est-ce que vous avez entendu parler du Flixton? C'est bien. Eh bien, je vais vous raconter ce qui s'est passé presque 100 ans aujourd'hui, jour pour jour. Il y a 100 ans, 1918, le Flixton était un bateau vapeur qui traversait la Manche du Havre au Pays de Galles, du Pays de Galles au Havre. Au mois de mars 1918, il avait quitté le Havre, direction Newport, au Pays de Galles. Le guet en haut de son mât, il regarde et il voit quelque chose de terrible. Il voit une tracée blanche, tout droit, qui se dirige vers le bateau. Mars 1918, il a compris une torpille. En même temps, il voit un sous-marin remonter en surface. Et il voit les sous-mariniers sortir du sous-marin pour regarder l'exploit. Donc le guet avertit tout le monde, torpille, torpille à bâbord. Tout le monde, par instinct, va au bâbord pour regarder. On aurait dit, mais il aurait fallu aller au tribord. Bon, bref, je n'ai pas un pied marin. Donc ils vont tous, et ils voient le tracé, et ils savent, les carottes sont cuites. Tout d'un coup, le guet qui voit plus loin, il voit que la torpille est en train d'arriver, et tout d'un coup, la torpille lève son nez. On aurait dit qu'il a fait un tour comme ça. Fait demi-tour et va dans l'autre sens. Et se dirige vers le sous-marin allemand. Et le sous-marinier allemand regarde avec stupéfaction parce qu'il voit que la torpille revient vers eux. Et la suite se trouve dans un article dans le New York Times qui parle d'une torpille boomerang. La torpille a fait demi-tour et ce n'est pas la seule fois dans la Première ou dans la Deuxième Guerre mondiale que ça arrive. Un dysfonctionnement mécanique de la torpille. Et le sous-marin a coulé. Que des morts. Bien sûr, les amis, les passagers du Flixton étaient contents. Pourquoi raconter ça? Eh bien, c'est parce que parfois, dans notre vie, Dieu retourne une situation. Parfois, Dieu fait ce qui est impossible aux hommes, mais ce qui est possible à Dieu. Parfois, on dit, mais les carottes sont cuites.
Je n'ai plus qu'à mourir. Et puis parfois le Seigneur intervient et il retourne la situation comme une crêpe, comme cette torpille. Et cela nous rappelle que Dieu observe ce que nous vivons. Il ne regarde pas seulement, il observe, il étudie, il regarde ce que nous vivons. Et il intervient en son temps et à sa manière. David savait que Dieu était là, que Dieu était présent et que Dieu était au courant de ce qu'il vivait. Dieu peut donner à une situation désespérée une situation complètement, une solution complètement inespérée. L'histoire du Flixton, c'était désespéré. La solution, et je ne dis pas que c'est Dieu qui a fait que, mais la solution était inespérée. Et parfois dans nos épreuves, dans nos difficultés, on dit mais c'est fini. À quoi ça sert de croire? À quoi ça sert de rester honnête? À quoi ça sert de rester fidèle? Mais le Seigneur intervient et le Seigneur peut donner une solution inespérée à une situation désespérée. Il nous demande de croire et de lui faire confiance. Quelques versets des psaumes. Quand j'étais dans la détresse, tu m'as mis au large. Tu es intervenu pour m'éloigner. L'Éternel entend quand je crie à lui. Le psaume 4, verset 2, le psaume 4, verset 4. Une prière, prête l'oreille à mes paroles, Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et j'attends. Le Seigneur s'attend à ce qu'on l'attende. Le Seigneur s'attend à ce qu'on s'attende à lui. Il s'attend à ce qu'on lui fasse confiance. Et le psalmiste dit, le matin, je me tourne vers toi. Dis la suivante, s'il te plaît. Tu bénis le juste, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Le psaume 5, verset 13. Confiez-vous en l'Éternel. Fais briller la lumière de ton visage sur nous, Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils en éprouvent quand on abonde leur blé et leur vin. Je me couche et aussitôt, je m'endors en paix, car c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité. Le psaume 4, verset 6 à 9. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Le diable veut qu'on se croie abandonné. Mais Dieu n'abandonne pas ceux qui le cherchent, ceux qui se confient en lui. Tu entends les désirs de ceux qui souffrent. Tu leur redonnes courage. Tu prêtes l'oreille. Qui c'est qui a besoin de courage ce matin? Eh bien, demandez au Seigneur de vous donner ce courage. Je ne sais pas ce que vous avez comme semaine devant vous, mais j'ai besoin de beaucoup de courage et de force pour la semaine devant moi. Priez pour moi, je prierai pour vous. Le Seigneur donne le courage, il prête l'oreille, parce qu'il sait ce que nous vivons. Oh, c'est parti, bon, peu importe. Dans beaucoup de psaumes, en lisant les psaumes, on se rend compte que le psalmiste parle de ce dont il a conscience et il parle de sa confiance. Et il parle aussi des conséquences de sa confiance en Dieu. Et le Seigneur aime nous entendre, nous exprimer quand on parle de ce dont on a conscience. Mais il veut aussi qu'on exprime notre confiance en lui. Et qu'on laisse les conséquences entre ses mains. Parce que c'est lui qui dirige, c'est lui qui contrôle, c'est lui qui est roi des rois. Et si seulement on pouvait faire pareil que David ici, Il admet, j'ai une quantité de problèmes. Mais il admet, Seigneur, je te fais confiance. Je sais que tu es là. Je termine avec quelque chose qui s'est passé il y a quelques jours. Devant un tribunal aux États-Unis, une jeune femme, Rachel, était au tribunal pour témoigner avec d'autres jeunes femmes et d'autres jeunes filles contre un ancien coach sportif de l'équipe olympique des États-Unis. Ce coach s'appelait Larry Nassar. Il était jugé pour pléthore d'abus sexuels sur des jeunes filles gymnastes. Il était condamné à 175 ans de prison. Rachel, parmi d'autres, a pu témoigner devant pour expliquer ce qu'elle a subi et ainsi de suite. Et elle a pu expliquer qu'après des années d'angoisse, de peur et de cauchemar, elle a pu faire confiance au Seigneur parce qu'elle est devenue chrétienne. Elle explique, elle a fait un discours de 30 minutes au tribunal. Elle s'adresse au juge, elle s'adresse au public, elle s'adresse à sa famille, elle s'adresse à Larry Nassar. Elle dit à Larry Nassar des choses qui venaient vraiment de ses tripes, de son cœur. Et elle explique que grâce à Jésus, elle a été pardonnée. Et grâce à Jésus, elle a pu pardonner à Larry Nassar pour des années de cauchemars, de souffrances et d'angoisse et de peur. Et elle explique à Larry et à tous ceux qui étaient là, si vous voulez être pardonné, repentez-vous de vos péchés. C'est formidable ce qu'on peut faire dans un tribunal. 30 minutes sans interruption. Mais pendant ce discours, bien sûr, beaucoup de gens ont pleuré. Mais ce que je veux souligner, c'est que cette jeune femme, grâce au Seigneur, et grâce à sa confiance, malgré sa souffrance, elle a pu connaître le secours de l'Éternel. David en parle. Elle a pu connaître le soutien de l'Éternel. David en parle. Elle a pu connaître le salut de l'Éternel. La délivrance de l'Éternel. David en parle. Pourquoi? Parce qu'elle a admis, j'ai une quantité de soucis. Mais j'ai une relation vraie, vivante avec le Seigneur de l'univers. Grâce à son Fils. Que le Seigneur nous aide, nous tous, aujourd'hui et dans les jours à venir. Quelle que soit la quantité de nos souffrances, de nos épreuves, de nos difficultés, de nos choix difficiles, quelle que soit la quantité, que Dieu nous aide à avoir une relation de qualité avec lui. Et vous verrez que ça peut changer des choses. Et ça peut changer même notre attitude par rapport à nos épreuves, par rapport aux autres. Que Dieu nous aide à lever la tête, regarder vers lui et lui faire confiance. Prions. Seigneur notre Dieu, merci car dans les psaumes nous lisons des choses écrites par des hommes et des femmes qui étaient comme nous. Ils ont souffert tant de choses et tu vois les souffrances représentées dans cette église ce matin. Seigneur, nous voulons te demander de nous aider pour que malgré la quantité de nos souffrances, aide-nous à avoir une relation de qualité avec toi. Aide-nous à nous tourner vers toi. Aide-nous à nous attendre à toi. Aide-nous à attendre que tu interviennes. Mais aide-nous aussi à toujours croire que tu es là, que tu es au courant, que tu observes et que d'une manière ou d'une autre, tu interviendras en ton temps et à ta façon. Aide-nous, Seigneur, malgré nos souffrances, à vivre jour après jour avec confiance en toi, car nous te prions afin que Jésus soit glorifié dans notre vie et pour sa gloire et en son nom. Amen.